Bonsoir. Visite du président de la Banque mondiale et du commissaire européen à l'action humanitaire et au développement. Quel est le résultat de cette double visite? Quelles garanties offrent les nouvelles autorités congolaises pour une bonne gestion de nouvelles subventions? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Parmi les réactions des auditeurs sur ce sujet, José Mananga de Kinshasa souhaite que la bonne gouvernance ne soit pas seulement un simple slogan, que le gouvernement Gizenga le démontre à travers la gestion de ses subventions de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Joe Ilunga de Mbujimayi au Kasai Oriental, je cite, « Je souhaite que toute cette masse d'argent venant de la Banque mondiale et de l'Union européenne soit répartie équitablement dans toutes les provinces de la RD Congo, ceci afin de résoudre les problèmes de santé, d'infrastructure, d'éducation, de salaire des fonctionnaires et qu'il n'y ait pas de détournement comme auparavant. » Fin de citation. Katembo Mwanga de Bunia en province orientale considère pour sa part que ces investissements donnés par la Banque mondiale comme un cadeau empoisonné, c'est une occasion, dit-il, d'exploiter le Congo. Nous recevons comme invité M. le vice-ministre du plan, Ferdinand Essambo, Pierre Kibaka, président de l'ONG Justice et Libération depuis Kisangani dans la province orientale. Ils suivent de près l'exécution des projets financés par la Banque mondiale. Et comme analyste, un confrère, Jérôme Sekana, journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
C'est connu, le président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, et le commissaire européen à l'action humanitaire et développement, Louis Michel, ont achevé le vendredi dernier leur visite conjointe en République démocratique du Congo. À l'issue de la visite, la Banque mondiale va décaisser en faveur de la RDC 1 milliard 400 millions de dollars d'aide financière. L'Union européenne, de son côté, a déjà débloqué 161 millions d'euros pour soutenir différents projets en RDC. Claude Kanza nous donne des précisions sur cette aide financière des partenaires de la RDC.
Sur ce montant de plus d'1 milliard de dollars promis par la Banque mondiale, 387 millions de dollars seront débloqués au courant de l'année 2007, dont 180 millions comme première tranche. Selon le président de la Banque mondiale, M. Paul Wolfowitz, cet argent est destiné à la réhabilitation des infrastructures de base et à la construction des routes, source de création d'emplois pour les jeunes qui n'attendent que cela, selon lui. Nous ne pouvons pas attendre 6 ans pour que le peuple congolais bénéficie du fruit de cette aide, a-t-il encore indiqué. Les Congolais doivent sentir rapidement les effets de cette aide financière, 6 mois après, car ils ont trop souffert, selon M. Paul Wolfowitz. Quant à l'Union européenne, elle a déjà débloqué 161 millions d'euros pour réaliser certains projets. M. Louis Michel, commissaire européen à l'action humanitaire et au développement, en a donné la répartition. 68 millions d'euros sont affectés à l'aide alimentaire, 33 millions d'euros à l'appui à la gouvernance dans le domaine de la justice, de la police et des finances publiques. 23 millions d'euros sont destinés à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et selon Louis Michel, ces travaux d'assainissement seront lancés avant la fin de l'année. Quant à la réhabilitation des routes, l'Union européenne y a affecté 22 millions d'euros. En ce qui concerne les mesures dites de stabilité, c'est-à-dire dans le domaine sécuritaire, 10 millions d'euros y sont consacrés. Enfin, selon le commissaire européen à l'action humanitaire et au développement, 5 millions d'euros sont prévus à l'amélioration de la sécurité aérienne.
Monsieur le vice-ministre du plan, Ferdinand Essambo, comment avez-vous accueilli au gouvernement cette aide financière de la Banque mondiale et l'Union européenne?
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, en tant que membre du gouvernement, c'est pour moi un agréable devoir de commencer par dire la gratitude envers la Banque mondiale pour l'appui financier important que la République démocratique du Congo bénéficie de cette institution, en particulier depuis l'année 2001, à savoir MUR. Nous avons reçu 579 millions de dollars pour 1051 km de route, puis PRESS, 264 millions de dollars, puis UACV, 60 millions de dollars.
Ça fait beaucoup d'argent que vous avez reçu. Est-ce que vous êtes satisfait donc de cette aide financière? Vous êtes content, gouvernement?
Nous sommes très contents, gouvernement, et avec le passage et les promesses qui viennent de nous être faites par le président de la Banque mondiale, nous sommes sûrs que nous pourrons faire quelque chose pour améliorer le quotidien du peuple congolais.
Voilà, nous avons en ligne de Kisangani Pierre Kibaka, vous êtes président de l'ONG Justice et Libération. Votre ONG suit de près les projets financés par la Banque mondiale. Votre commentaire sur le geste de ses partenaires de la RDC?
En fait, nous saluons chaleureusement ce geste des partenaires de la RDC et surtout nous saluons la visite du président de la Banque mondiale. Comme vous le savez, il a commencé par Kisangani. Nous croyons qu'à Kisangani, c'est une marque de sympathie envers cette ville qui a tant souffert pendant de nombreuses années durant les différentes guerres. Donc nous sommes vraiment contents de ce geste de la Banque mondiale et même de l'Union européenne et nous croyons que tout sera utilisé à bon escient.
Voilà, nous avons comme analyste ce soir Jérôme Sekana, journaliste économique. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Jérôme, des milliards de dollars et euros offerts par la Banque mondiale de l'Union européenne?
Oui, c'est quelque chose de très très positif. Moi, je dirais que c'est à la fois peu et beaucoup. Peu dans la mesure où, quand on voit les attentes de la population, c'est vraiment insignifiant. Et quand on voit ce que la Banque mondiale donne à d'autres pays, notamment en Amérique latine, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. C'est beaucoup parce que nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas parce que nous mobilisons en moyenne 1 milliard de dollars l'an en recettes propres. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut nous amener à concrétiser le projet que nous avons, notamment le programme gouvernemental qui se chiffre à 14 milliards et demi de dollars américains.
Pour les 5 ans.
Alors moi je voudrais compléter un peu son excellence monsieur le vice-ministre pour rappeler ici que le PMU auquel il faisait allusion avait comme enveloppe de 1 milliard 750 millions de dollars américains et il n'y avait pas que la Banque mondiale qui avait financé. Le PUS Press c'était 214 millions de dollars américains et le PUACV 68 millions de dollars américains.
Voilà, donc on a retenu satisfaction du côté du gouvernement. Pour Jérôme, c'est peu, mais disons c'est un bon geste, mais ce n'est pas suffisant. Hein,
Oui, parce qu'on pouvait bénéficier plus que ça. Si vous regardez l'enveloppe, l'intervention de la Banque mondiale en RDC par an, la moyenne est de 500, ça varie entre 400 et 500 millions. Des dollars américains. Alors, quand la Banque mondiale nous donne 1 milliard 400 millions de dollars américains étalés sur 3 ans, donc il n'y a pas de changement. Donc j'aurais voulu que la Banque mondiale nous accorde par exemple 5 milliards, 10 milliards, et tout dépend de la bonne gouvernance, parce que la Banque mondiale est un partenaire très très important. Au mois de juin, il y aura à Paris la réunion du groupe consultatif des bailleurs de fonds. Là-bas, en tant que locomotive des bailleurs de fonds, la Banque mondiale va plaider pour en faveur de la République démocratique du Congo. Nous aurons peut-être une autre cagnotte beaucoup plus importante, et nous osons croire que même en septembre également, lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale continuera encore à se faire l'avocat de la République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faut retenir ici est que l'enveloppe n'a pas changé. Oui. L'enveloppe n'a pas changé dans la mesure où la Banque mondiale nous donne entre 400 et 500 millions de dollars américains par an. Et si elle nous propose aujourd'hui 1 milliard 400 millions pour 3 ans, donc l'enveloppe n'a pas changé.
C'est presque pareil. Nous avons l'habitude dans Dialogue entre Congolais de poser aussi aux invités quelques questions de nos auditeurs. Nous prenons par exemple Katembo Mwanga de Bunia en province orientale qui considère ces subventions ou cet argent offert par la Banque mondiale et l'Union européenne comme un cadeau empoisonné, une occasion selon notre auditeur de Bunia d'exploiter le Congo. Monsieur le ministre, est-ce que c'est votre avis aussi?
Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une occasion d'exploiter le Congo. Au contraire, nous avions besoin de cet appui. Et comme a dit le journaliste
Jérôme Sekana,
il a tout à fait raison. Cette enveloppe est à la fois peu, au regard des besoins immenses de notre pays, après, dans cette phase de reconstitution du pays, un pays très immense, aux dimensions d'un continent.
C'est là. Oui, Jérôme Sekana, vous avez suivi cet auditeur qui parle d'un cadeau empoisonné.
Peut-être notre compatriote n'est pas informé. Je dois vous avouer que n'eût été l'intervention de la Banque mondiale dans ces pays, on n'aurait pas peut-être des infrastructures de base comme celles que nous en avons aujourd'hui. Il habite dans quelle province, vous me dites?
Il est dans la province du Nord Kivu.
Dans la province du Nord Kivu. Mais il y a des travaux qui se font dans toutes les provinces grâce au financement de la Banque mondiale. Il faut retenir une chose. La Banque mondiale nous vient en appui. C'est nous-mêmes qui allons d'abord nous mobiliser. Nous devons mobiliser les ressources intérieures pour reconstruire notre pays. Et la Banque mondiale vient dans l'enveloppe là des 1,4 milliard, il y a des dons et il y a aussi des prêts. Et des prêts avec de faibles taux, hein, des remboursements. Donc nous allons rembourser avec un faible taux. Donc c'est pour dire que la Banque mondiale est un partenaire très important. Il y a des centaines d'écoles qui ont été réhabilitées ou même reconstruites en République démocratique du Congo grâce à la Banque mondiale. Vous dites qu'il est à Goma?
Non, il est plutôt dans la province orientale.
Dans la province orientale, il peut voir la route qui mène vers Iziro. On est en train, ils sont déjà au niveau de 70 kilomètres. Bientôt, il y a une équipe qui vient du côté d'Iziro et l'autre qui vient du côté de Kisangani. On va réouvrir cette route. Donc, la Banque mondiale nous aide. À Kinshasa, nous avons la nationale numéro 1 de Kinshasa jusqu'à Matadi, surtout à partir de Pompozo à Matadi jusqu'à Manzangungu. Et dans toutes les autres provinces à Kinshasa, vous avez l'avenir Kassavu. Les exemples sont légion. Si la Banque mondiale ne nous était pas venu en aide, en tout cas les infrastructures de base seraient dans un état piteux, puisque c'est l'état auquel nous le voyons aujourd'hui.
Même si certains projets, Jérôme, sont mal exécutés.
Oui, certains projets sont mal exécutés, voilà. C'est un problème de suivi.
Voilà, deux autres auditeurs, Yves Mampouya, Béni au Nord Kivu, et Dieudonné Yemo en Belgique, veulent savoir si c'est un prêt ou un don, et quel sera le délai de remboursement. Ils demandent même quel pourcentage sera alloué au social.
Oui,
monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre du plan Ferdinand Essambo, est-ce que c'est un prêt ou un don, cet argent donné par la Banque mondiale et l'Union européenne?
Je dirais que c'est à la fois un don et un prêt. Au regard de cette enveloppe qui est assez consistante, une partie de cet argent constitue des interventions au titre de don, c'est-à-dire les interventions qui vont dans le secteur du social, telles que l'éducation, la lutte contre le VIH-SIDA, ça, ce sont des dons. Donc, ils ne sont pas remboursables. Quant à l'intervention dans le secteur productif, telles que les mines, les hydrocarbures, il s'agit là des prêts. Mais, comme a dit le journaliste
Jérôme Sekana,
ce sont des prêts qui sont assortis à des taux d'intérêt concessionnaires, c'est-à-dire de très faibles taux d'intérêt.
Donc, qui seront quand même remboursés?
Ils seront remboursés.
Voilà, vous êtes bien dans Dialogue entre Congolais. Thème de ce soir, visite du président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, accompagné du commissaire européen à l'action humanitaire et au développement, Louis Michel. Quel est le résultat de cette double visite? Quelles garanties offrent les nouvelles autorités congolaises pour une bonne gestion de nouvelles subventions? Nous en parlons avec le vice-ministre du plan, Ferdinand Essambo, Pierre Kibaka, président de l'ONG Justice et Libération de Kisangani dans la province orientale, qui suit de près l'exécution des projets financés par la Banque mondiale, et comme analyste, un confrère journaliste, Jérôme Sekala.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Quelles garanties offrent les nouvelles autorités congolaises pour une bonne gestion de nouvelles subventions? Avant de faire réagir les autorités congolaises et passer même au débat de cette autre question, je vous propose d'abord d'écouter à ce sujet le président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, qui dit ce que son institution compte faire pour aider la RDC dans la bonne gestion de ses subventions. Je rappelle qu'il répondait aux journalistes lors de son point de presse conjoint avec le commissaire européen Louis Michel au Grand Hôtel Kinshasa. Le son du président de la Banque mondiale est traduit par Alain Hirong.
Nous allons aider le gouvernement à améliorer son niveau de gouvernance et à lutter contre la corruption, car la gouvernance, c'est la fondation, le fondement et même la base de tout ce qui doit être fait dans ce pays. Alors concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons intervenir à deux niveaux. D'abord donner des conseils sur la façon de procéder et ensuite essayer d'obtenir l'assistance d'autres pays pour aider à la mise en place d'une stratégie de bonne gouvernance, car il faut renforcer la bonne gouvernance. C'est possible. Notre expérience nous a montré que nous avons pu arriver à réduire le niveau de corruption dans beaucoup de pays. J'en veux pour preuve certains pays asiatiques. Mais c'est quelque chose qu'il faut effectuer étape par étape. Vous savez, la corruption ne disparaît jamais en quelque sorte. Même aux États-Unis, mon pays d'origine, la corruption continue d'exister, mais nous avons les moyens d'y faire face. Deuxièmement, nous allons intervenir à travers la fourniture des ressources. Dans tout ces programmes, nous allons veiller à ce que les procédures de passation des marchés soient transparentes et nous allons également veiller à apporter un volet de formation afin d'apprendre aux organes compétents de bien maîtriser les normes et les réglementations transparentes en matière de passation de marché.
Voilà, réaction de la partie congolaise, c'est notamment avec le ministre des Finances, Athanase Matenda. Il souhaite être jugé aux actes. Athanase Matenda.
Nous voudrions que l'opinion, les bailleurs, puissent nous apprécier sur base du respect ou non des engagements pris dans ce contrat de bonne gouvernance. Donc c'est ça la garantie pour que lorsque nous recevrons ces ressources, nous allons les gérer conformément aux normes, conformément aux procédures.
Il n'y aura pas de décaissement ou de déficit encore
Il ne faudrait pas non plus dire qu'une gestion qui se respecte ne peut pas ne pas avoir un déficit. Un déficit, l'essentiel, c'est d'être capable de l'expliquer. Les simples variations des paramètres peuvent faire en sorte qu'on puisse aller dans un déficit. Mais l'essentiel, c'est d'être capable de l'expliquer. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de déficit d'emblée. Non, s'il y a des événements qui arrivent qui n'étaient pas prévus dès le départ, on va les financer, mais il faut l'expliquer. C'est ce qui est important.
Nous avons en ligne de Kisangani le président de l'ONG Justice et Libération, Pierre Kibaki. Vous avez déjà suivi l'exécution de certains projets financés par la Banque mondiale, notamment les routes. Un petit mot d'abord sur l'état de réalisation de ces chantiers.
D'abord, je voudrais apporter un rectificatif par rapport à ce que Jérôme a dit. La route qu'on est en train de réhabiliter, ce n'est pas la route Ijiro, mais c'est plutôt la route qui doit relier Kisangani, Beni et Bunia. Donc ça, c'est un élément important. Je suis à Kisangani, je connais tous ces dossiers. En fait, pour tous les travaux qui ont été financés par la Banque mondiale ici, dans la province orientale et à Kisangani en particulier, nous avons, comme Jérôme l'a dit, beaucoup d'écoles qui ont été réhabilitées et beaucoup de centres de santé ont été réhabilités. D'ailleurs, lors de la visite du président de la Banque mondiale ici à Kisangani pendant quelques heures, il a eu lui-même à visiter certaines écoles qui ont été complètement réhabilitées. Et là, nous saluons ces actes-là. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'autres actions qui ne sont pas encore arrivées à terme. Tout à l'heure, là, Jérôme parlait de 77 km, 70 ou 77 km, c'est la route Itori. Mais il faut comprendre que cette route a été subdivisée en deux parties. Il y a une partie, une société, je crois, des Chinois, qui a commencé par Bunia, Beni, et une autre société qui devait commencer par Kisangani pour faire jonction sur Nyanya. Mais malheureusement, la société qui est ici à Kisangani, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'elle n'a même pas encore atteint 100 km. Donc disons en bref qu'il y a des travaux qui ont été bien faits, comme il y a aussi d'autres travaux qui laissent à désirer jusqu'à maintenant.
Voilà, là c'était Pierre Kibaki, président de l'ONG Justice et Libération. Est-ce que les mécanismes annoncés par la Banque mondiale et le ministre des Finances pour une bonne gestion, est-ce que ça vous rassure?
De toutes les façons, on est toujours rassurant, mais le véritable problème, c'est comme on l'a dit, ce sont les infrastructures de base qui concernent la population. Et ici, je voudrais interpeller tous les collègues de la société civile. Il faudrait qu'on comprenne que notre pays ne sera pas géré aujourd'hui comme il a été géré hier. Nous avons des institutions qui doivent contrôler l'exécutif à tous les niveaux, et nous pensons que la société civile doit aussi se mettre au travail pour essayer de suivre tous les dossiers qui concernent tous ces financements. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous, Congolais, croiser les bras pour commencer demain à parler du mal des autres, mais nous devons tous nous impliquer. Je crois que tout à l'heure, là, Jérôme ou le vice-ministre avait bien dit, c'est un problème qui concerne tous les Congolais, et particulièrement nous, comme acteurs de la société civile, nous avons tout intérêt à pouvoir suivre tous ces dossiers à partir des marchés qui sont conclus. Parce que, comme vous le savez, c'est la Banque mondiale qui conclut les marchés avec les partenaires sur le plan interne, mais c'est plutôt d'autres organisations qui sont sur place. Donc, nous avons tout intérêt à pouvoir suivre tous ces marchés qui sont conclus et voir comment ces travaux sont exécutés, parce que ce sont des travaux, cet argent, le vice-ministre l'a bien dit, cet argent est destiné pour la population congolaise, mais il n'est pas destiné pour une catégorie de gens. Donc nous croyons qu'avec tous les mécanismes mis en place et avec les assurances que le gouvernement nous donne sur la bonne gouvernance, tout pourra aller pour le mieux.
Voilà, Jérôme Sekana, journaliste, mais là vous intervenez comme analyste. Qu'est-ce que vous pensez des mécanismes de soutien à la bonne gestion annoncée par la Banque mondiale et les garanties du gouvernement?
Oui, je voudrais d'abord remercier l'intervenant de Kisangani pour ses rectificatifs. J'ai déjà visité plus de 3 fois cette route. Effectivement, la jonction doit se faire au niveau des Nyanya. Les garanties, nous pouvons les avoir, bien sûr. Quand vous suivez les discours du Premier ministre au Parlement, c'est un discours ou programme qui a essayé de fixer un peu l'opinion sur ce que sera ce gouvernement. Et quand vous suivez le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres, hein, la réunion du Conseil des ministres est le tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu, il y a des mesures qui ont été prises pour assainir les finances publiques. Mais ces garanties, elles ne sont pas tellement... on ne peut pas compter beaucoup sur ces garanties quand il n'y a pas des sanctions. Il faut qu'on arrive à punir les gens. Je vais vous donner un exemple. La Banque mondiale qui nous donne de l'argent. La Banque mondiale a donné de l'argent. Et avec cet argent, on a acheté par exemple des véhicules. Des véhicules Prado, on en a acheté une bonne vingtaine, une trentaine d'ailleurs au niveau des ministères. Mais qu'est-ce qu'on a constaté quand il y a eu changement? Certains ministres se sont permis de partir avec ces véhicules-là. Des véhicules neufs achetés à 36 000 dollars américains, le véhicule au niveau d'Afrima, qui ont été désaffectés, c'est-à-dire déclassés 2 ans après, parce que le ministre qui était là, qui les utilisait, devrait partir avec ça. Vous voyez que même le donateur, même la Banque mondiale, ne peut pas être contente de cette façon de gérer les choses. Je pense que l'argent a été donné, et il en est de même d'autres, des ordinateurs et même les équipements de froid qui étaient destinés au niveau de l'hôpital général de Kinshasa. Les exemples sont légion. Donc la solution à tout ce problème, la garantie que le gouvernement Gizenga peut donner aux bailleurs de fonds, notamment à la Banque mondiale, je pense ici aux multilatéraux comme la Banque mondiale, la BAD, et même aux bilatéraux, c'est-à-dire tous les autres pays qui nous viennent en aide, c'est qu'il faut bannir l'impunité. Il faut sanctionner sévèrement les gens. Il faut envoyer un signal fort. Donc, qu'il y ait une gestion transparente. Et ce n'est pas avec une gestion où il y a des déficits. Nous avons un déficit cumulé de 25 milliards de francs congolais, parce que l'année passée, nous l'avons terminée avec 47 milliards de déficits. Le mois de janvier, 12 milliards de francs congolais de déficit. Le mois de février, 16 milliards de francs congolais de déficit. Ce ne sont pas des signaux, des bons signaux que nous envoyons vers les partenaires au développement. Donc il faut rassurer ceux qui nous viennent en aide. Parce que quand nous comportons comme ça, les bailleurs de fonds vont dire, nous allons donner de l'argent, mais cet argent n'arrivera pas à destination. Ces gens vont empocher cet argent et en ce moment-là, on ne nous prendra pas au sérieux.
Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez même pas, Jérôme Sekana, dans les mécanismes de suivi?
Le mécanisme de suivi existe. Nous avons ce qu'on appelle les agences d'exécution. Même si elles sont multiples et parfois les suivis sur le terrain posent problème.
C'est que BCECO,
le BCECO, par exemple, a pour le moment des experts en ce qui concerne la passation de marché. Elle s'occupe des appels d'offres, les traitements des dossiers et tout ça. Mais la gestion du projet, c'est d'autres, elles-mêmes, le BCECO lui-même gère parfois certains projets. Mais il y a, en ce qui concerne le PISPRES, c'est l'ICOP qui gère, par exemple, la route à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, là, et d'autres agences d'exécution comme le BCNI pour les grandes infrastructures, comme la COPIREP, ainsi de suite. Toutes ces agences-là devraient en principe avoir des experts en ce qui concerne la passation des marchés, mais la plupart des marchés en ce qui concerne par exemple l'ICOP, les appels d'offres en ce qui concerne...
Vous pensez que ça ne se passe pas bien là?
Ça se passe bien, mais il y a des déficits. Je vous dis, je l'ai dit pourquoi, parce que nous avons en pipeline 1 milliard de dollars américains que nous n'avons pas réussi à consommer pendant la transition. La Banque mondiale nous a donné une cagnotte de plus de 3 milliards de dollars américains, mais on n'a pas arrivé, on n'a pas décaissé 1 milliard, tout simplement parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas réussi à préparer dans les délais des dossiers bancables. Et ce retard-là, nous le partageons avec la Banque mondiale. La Banque mondiale a aussi une lourdeur administrative. Les avis de non-objection viennent avec un grand retard et c'est ce qui fait que parfois, certains projets ne prennent pas corps dans les délais. Il faut attendre. Et le président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz, l'a reconnu. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il faut agir vite. Donc, on ne doit pas attendre 6 ans. Il faut que les projets qu'on doit financer aient déjà un impact visible et immédiat. Même dans les 6 mois qui arrivent.
Ok. Et au gouvernement, monsieur le vice-ministre du plan Fernand Essambo, vous dites que il faut qu'on vous juge aux actes. On a suivi tout à l'heure le ministre des Finances, Athanase Matenda. On a suivi aussi Pierre Kibaka de la société civile, en fait, président de l'ONG Justice et Libération à Kisangani, qui, lui, déjà souhaite que la société civile puisse avoir un œil regardant dans la passation de marché et même dans la réalisation de projets. Et Jérôme Sekana, qui évoque là le problème de sanctions, donc problème d'impunité. Monsieur le vice-ministre du plan, est-ce que le gouvernement promet cette fois-ci de sanctionner pour que l'argent sorti de la Banque mondiale et de l'Union européenne serve finalement au peuple?
Effectivement, je voudrais commencer par relever le fait que, monsieur le journaliste, la RDC vient de très loin. La crise était tellement profonde sur tous les plans qu'une seule voie s'est imposée pour ramener la paix et redonner l'espoir au peuple congolais. La démocratie restaurée après la guerre et tout le peuple congolais dans son ensemble y a cru. Maintenant que presque toutes les institutions sont animé par des gens élus par notre peuple, cela constitue une première grande garantie, d'autant plus que nous aurons des comptes à rendre à ce peuple qui nous a placés là où nous sommes actuellement. Nous avons signé un contrat avec ce peuple. Lui a rempli sa part et nous aussi nous devons faire notre part. En plus de la bonne gouvernance, l'éthique, l'amour de la patrie, tel qu'énoncé par le Premier ministre lors de sa réponse aux questions posées par les parlementaires, les parlementaires, nous devons aussi savoir que, effectivement, la lutte contre l'impunité constitue une autre voie, une autre solution, une autre garantie pour nous, les gouvernants. Le président de la République l'a même promis quand il a dit que les portes de la prison sont largement ouvertes à l'endroit de tout fautif, tout corrompu, tout corrupteur. Le vice-ministre, le premier ministre aussi n'a cessé de le relayer lors de ses interventions.
Donc même les ministres, on pourra les voir aussi en prison.
Ah, bien sûr, nous sommes des citoyens congolais. Et d'ailleurs, ce sont les membres du gouvernement qui devront donner le bon exemple et le meilleur d'ailleurs.
Et au niveau du ministère du plan, vous êtes vice-ministre du plan, qu'est-ce que vous allez faire pour que justement qu'il y ait plus d'impunité, que la passation de marché se fasse dans la transparence, qu'il y ait plus de suivi dans l'exécution et même la qualité des projets exécutés et financés par la Banque mondiale et l'Union européenne?
Au ministère du plan, mon ministre et moi, nous nous sommes dit que nous devons veiller d'abord sur les résultats. Sur les résultats, nous n'allons pas seulement nous contenter des contrats signés, etc., mais nous devons descendre sur le terrain, voir, palper les réalités de du doigt et voir comment s'exécutent les projets. S'il y a des problèmes, nous n'hésiterons pas à sanctionner.
Donc le ministre promet de passer plus de temps sur le terrain que dans les bureaux?
Non, on travaillera dans les bureaux bien sûr, mais on ne pourra pas ignorer le terrain parce que nous devons être là pour suivre tout ce qui s'exécute sur le terrain.
Voilà, Jérôme Sekana, oui.
Je voudrais simplement rappeler aux auditeurs qui nous suivent que les agences qui sont installées en République démocratique du Congo, des agences d'exécution, ce sont des agences du gouvernement. Mais ces agences ont des tutelles. C'est par exemple le BCECO a comme tutelle ministère des Finances, tandis que l'UCOP, qui gère beaucoup de projets dans la partie Est, est dirigé et a comme tutelle le ministère du Plan. Et lorsque son excellence, monsieur le vice-ministre, dit qu'il passera plus de temps sur le terrain, c'est vrai, parce qu'il y a un budget qui est prévu pour ça. Donc, il faut voir, assurer un suivi sur le terrain, faire des inspections. Et c'est ce que fait d'ailleurs le coordonnateur de l'ICOP, Thibault Bolkitmout, presque chaque mois. Il est à l'est du pays.
Oui, même si malgré cela, il y a des projets qui ne sont pas bien exécutés. Hein. On va le suivre avec le président de l'ONG Justice et Libération, monsieur le vice-ministre du Plan. Et notre auditeur, c'est Joe Ilunga de Mbujima et au Kassai Oriental. Il souhaite que toute cette masse d'argent venant de la Banque mondiale et de l'Union européenne soit répartie équitablement dans toutes les provinces de la RD Congo. Ceci afin de résoudre, entre autres, les problèmes de santé, d'infrastructure, éducation, salaire et fonctionnaires, et qu'il n'y ait pas détournement comme auparavant. Est-ce que vous garantissez, en répondant à cet auditeur, que cet argent ne va pas servir uniquement à Kinshasa?
Non. Cet argent ne va pas servir uniquement à Kinshasa. Preuve, dans les projets, nous avons la réhabilitation, par exemple, côté Inga. Nous devons aussi réhabiliter le barrage Ruzizi 1er. Ça, c'est déjà les deux extrêmes, Est et Ouest. Nous avons aussi des projets au centre du pays. Donc, ce n'est pas seulement à Kinshasa.
Voilà, nous avons en ligne de Kisangani Pierre Kibaka, président de l'ONG Justice et Libération. Vous avez suivi le vice-ministre du Plan, vous avez suivi aussi Jérôme Sekana par rapport à toutes les garanties offertes par le gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfait de toutes les assurances que donne le vice-ministre du Plan?
Bon, en fait, je suis à moitié satisfait, mais je voudrais plutôt rejoindre Jérôme dans ses analyses. Je comprends qu'il est vraiment déterminé. Vous voyez, tous les problèmes qui se posent chez nous, c'est d'abord un problème de suivi, et même avant le suivi, c'était un problème de passation des marchés. À qui on confie les marchés pour les travaux? On ne peut pas confier les travaux, par exemple, de réhabilitation de la réfection d'une grande route, comme la route Kisangani-Bounia, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, à une personne qui n'a même pas une brouette. Je ne dis pas que ce secteur n'a pas de brouette. Le véritable problème, il faudrait qu'on confie le marché réellement aux entreprises qui sont en mesure de faire le travail. Et c'est comme ça que je disais que, déjà à partir du niveau de la signature des cahiers de charges ou tout ça, il faudrait que la population soit informée. Parce que dans notre pays, on a comme l'impression que tout se fait au niveau des bureaux à Kinshasa, et la population ne fait que subir. Parce que si la population est réellement informée, par exemple, on leur dit, on veut faire tel travail, ça prendra tel temps, et cette population-là pourra suivre. Parce que, comme le ministre, le vice-ministre l'a dit, il n'aura pas tout le temps de descendre ici. Et il faut se retenir que ces projets sont destinés, non pas au gouvernement, mais ce sont des projets qui sont destinés à la population à la base. Donc, il faudrait l'implication de cette population. Et cette population ne pourrait être impliquée. Aujourd'hui, le vice-ministre a dit que nous avons toutes les institutions élues. Au niveau des provinces, nous avons des assemblées provinciales. Il faudrait que les assemblées provinciales qui ont été mises en place puissent commencer à suivre tous ces projets pour savoir à qui on a remis tel marché et comment il exécute le marché. Sinon, nous allons continuer à tourner en rond dans ce pays et à continuer à faire des discours. Et là aussi, il y a un problème important que Jérôme a souligné, c'est cette lutte contre l'impunité. Tout à l'heure, avant le juste au début de l'émission, vous avez parlé d'un fonds important qui a été émis par l'Union européenne pour l'administration de la justice. Il faudrait qu'on y pense aussi. On ne peut pas continuer aujourd'hui, les gens qui reçoivent l'argent, demain ils s'achètent des voitures, ils se construisent des maisons, et ils sont là aux vies aussi de tout le monde. Donc je crois qu'il faudrait allier tous ces problèmes, cette lutte contre l'impunité, et surtout, j'insiste, pour que la population à la base soit réellement impliquée dans tous ces marchés. On a dit à Kisangani, des entrepreneurs qui sont venus de Kinshasa, deux, trois jours après, il a laissé les ouvriers à leur merci, le type est parti. Donc on ne peut pas continuer dans ces habitudes-là.
Voilà, monsieur le vice-ministre du Plan, Ferdinand Fernand, je pense, et Sambo, vous avez dit que vous promettez de descendre sur terrain hein, pour assurer ou garantir une bonne gestion dans les travaux à exécuter, les différents projets à exécuter, mais vous venez de suivre là Pierre Kibaka, président de la... Oui, c'est Ferdinand Isambo justement. Là, vous venez de suivre Pierre Kibaka, président de l'ONG Justice et Libération. Il parle maintenant du problème de... En plus de descendre sur le terrain pour le suivi, mais il y a aussi le problème de passation de marché. Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, problème de passation de marché... Je crois que nous n'allons pas rénover. Parce que tous ces marchés résultent des processus suffisamment longs, des appels d'offres. Mais je crois que ce qui a manqué ou ce qui manque, ce qu'il faudra corriger, c'est au stade de suivi, de contrôle. De suivi et de contrôle, car comme a dit le journaliste
Jérôme Sekana,
il y a certaines agences d'exécution qui prennent les pieds. Et il faudra, en ce qui nous concerne, d'essayer de les bousculer pour que effectivement ils prennent au plus grand sérieux le travail et qu'ils ont promis conformément au contrat qu'ils ont eu à signer. Par exemple, d'ici 2008, le projet PMUR va arriver à son terme. Alors si aujourd'hui, par exemple, on peut dire à une des agences d'exécution telles que BCMI d'arrêter parce qu'il a traîné par-ci par-là, je crois que ça prendrait encore beaucoup plus de temps pour trouver, reconclure d'autres accords, ainsi de suite, avec d'autres agences. Mais nous allons essayer de travailler la main dans la main. Nous allons, grâce à nos descentes sur terrain, beaucoup de choses pourront être corrigées.
Oui, vous dites que beaucoup de choses pourront être corrigées. Donc, pas question, si on vous a bien suivi, pas question de renouveler les marchés que vous avez déjà passés, c'est-à-dire le gouvernement avec notamment les agences d'exécution. Mais qu'est-ce que vous ferez des entreprises qui ont fait des travaux, mais qui sont mal faites, parce que les études sont mal faites. Là, à Radio Capi, nous avons eu à faire des enquêtes. On a vu des avenues comme l'avenue de l'université ici à Kinshasa, 6 millions de dollars, et puis tout doit être refait. Vous gardez les mêmes entreprises, monsieur le vice-ministre du plan Ferdinand Essambo?
À cette question, ça n'a pas encore été décidé à notre niveau.
Ça n'a pas été décidé.
Ça n'a pas encore été décidé. Effectivement, nous venons de prendre fonction et nous ne nous sommes pas encore imprégnés de tous ces dossiers dans leurs moindres détails.
Sur la réaction, Jérôme Sekana, journaliste économique.
Simplement apporter un petit éclairage. À chaque projet correspond un dossier complet. Il faut lancer des appels d'offres, il faut faire respecter le processus de passation de marché. C'est un processus qui est défini déjà au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale a son processus à lui. Le fonds monétaire, parfois, nous donne des miettes, bien sûr. La BAD a son système, ainsi de suite. Même les bailleurs de fonds, les bilatéraux comme la France, la Belgique, ainsi de suite. Donc, chaque donateur vient avec son système. Donc, il n'y a pas un modèle standard pour dire que non. Alors, en ce qui concerne le projet, les agences d'exécution sont là. Ces agences d'exécution sont le fruit des concertations entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Donc, il y a des audits qui se font régulièrement. Donc, la Banque mondiale, je vous donne les cas du BCECO. Au BCECO, le DG, c'est un Congolais, mais son adjoint doit être un expatrié. C'est pour vous dire que là-bas, on gère avec le regard, bien sûr, des donateurs. Tandis que, par exemple, au BCECO, plutôt à l'ICOP. L'ICOP, c'est la seule agence où vous avez tous les experts, tous ceux qui travaillent là-bas, ce sont des Congolais. Et heureusement, les choses avancent très bien. On a quand même quelques résultats, en dépit, bien sûr, des quelques failles qu'on a constatées, notamment au niveau de Goma, hein, pour les stades et d'autres travaux qui ont été effectués.
Et même des routes.
Voilà.
Et même des routes, Jérôme. Voilà, c'est le temps de passer aux opinions des auditeurs, d'autres opinions des auditeurs avec Kelly Couté. Bonsoir Kelly.
Bonsoir Jean-Claude. Il y a Hérité Katanga de Kananga dans le Kasai occidental qui dit « Connaissant bien le comportement des autorités congolaises, je ne crois pas que cet argent servira à quelque chose, car tout le monde cherchera d'abord à remplir ses poches. Pour bien gérer ce financement, l'Union européenne doit mettre un comité pour suivre de près toutes les dépenses. » Justin de Kinshasa dit ceci, je conseille au gouvernement de ne pas se fier entièrement aux dons qui ne sont pas des dons que la communauté internationale se précipite de nous donner. Ce sont des dettes qu'elle nous impose d'avance. Roger Yassasa à Bukavu dans le sud qui vous dit, je pense que le mieux serait que l'Union européenne et la Banque mondiale envoient des experts pour contrôler les travaux qui seront faits. Olivier depuis Matadi dans le Bas-Congo dit, il semble que notre pays est riche, pourquoi nous n'arrivons pas à nous autofinancer? Pamphile Mbouy de Lubumbashi dans le Katanga pense qu'il faut punir tous les détourneurs des fonds afin de bien gérer cet argent. Je termine par M. Diasoniama.
Oui, depuis Kinshasa.
Oui, qui dit ceci, Au lieu de donner chaque fois du poisson aux Congolais, il faut leur apprendre à pêcher. L'argent que la Banque mondiale va donner à la RDC est un cadeau empoisonné.
Monsieur le vice-ministre Ferdinand Essambo, vous avez suivi quelques opinions des auditeurs. On entend qu'il y a des ceux qui ne vous croient pas, qui croient que vous allez privilégier vos intérêts personnels et pas travailler pour le peuple.
Je manque les mots. Parce que c'est vrai. Le pays a été mal géré. Tout le monde en est conscient. À partir des enfants de l'école primaire, des paysans qui vont dans les champs, tout le monde est conscient de cela. Mais ce pays est le seul que nous avons. Est-ce que nous devons continuer à gérer de la même manière que nos prédécesseurs? Je ne crois pas. Nous devons nous arrêter et nous dire quelque part que nous devons corriger les choses. Nous devons faire comme les autres pour que nous puissions avoir un Congo où les enfants de ce pays pourront vivre comme au moins les frères africains du Maroc ou même du Kenya, dont le PIB par tête d'habitant est au-dessus de $500 par habitant. Mais ici, nous avons beaucoup moins que cela. C'est une honte. Beaucoup d'intervenants ont parlé des richesses de ce pays, c'est vrai.
Oui, il faut conclure parce qu'on n'a plus assez de temps.
Nous sommes très riches, mais cette richesse, elle restera apparente pour autant que la mentalité ne change pas.
Donc le ministre, le vice-ministre du plan, Ferdinand Essambo, promet de s'appliquer à une bonne gouvernance.
En tout cas, tout le gouvernement en général et au ministère du plan en particulier, notre action sera guidée par la bonne gouvernance.
Et disons que la population va vous juger aux actes, comme vous l'avez dit. Jérôme Sekana,
je suis de l'avis de notre compatriote Olivier qui a appelé depuis Matadi. Nous pouvons nous autosuffire. Nous pouvons avoir dans ces pays un budget de plus ou moins 20 milliards. Vous savez, nous avons une très grande capacité contributive, mais qui est sous-exploitée. Le problème, c'est que nous ne payons pas nos impôts et taxes parce qu'il n'y a pas, il y a une certaine crise de confiance. Je pense que le gouvernement Gizenga a promis de faire des réformes, a promis d'assainir les finances publiques. Nous allons apporter toute notre contribution pour que ce pays puisse s'autosuffire d'abord à partir des ressources intérieures et l'aide qui viendra de l'extérieur, l'assistance financière qui viendra de l'extérieur, ça sera un appoint. Mais je voudrais terminer. Nous avons surpris le monde en 2001.
Oui, on a pris du temps, Jérôme.
En 2001, j'ai conclu en une minute. Oui. La Banque mondiale est revenue dans ces pays tout en sachant très bien que en 2000, nous avons réussi avec les programmes intérimaires renforcés sans l'aide extérieure. C'est pourquoi elle nous avait donné un don de 50 millions de dollars.
Voilà. Ok, en quelques secondes seulement, Pierre Kibaka, réaction.
Bon, en fait, nous faisons confiance à toutes les structures qui ont été mises en place et nous pensons que, comme le Premier ministre l'a dit, le pays sera gouverné autrement pour que les Congolais puissent retrouver leur sourire.
Voilà, merci. C'est tout pour Dialogue entre Congolais de ce soir. Merci à tous pour la participation et la réalisation de cette émission. Rendez-vous tout d'abord demain matin à 4h45, heure de Kinshasa et Kikwit pour la rediffusion de la même émission, une heure de plus à l'est du pays. Retrouvez aussi Dialogue entre Congolais sur votre site internet www.radiokapi.net et sur les ondes courtes sur 11 690 kHz. Quant à moi, je vous prie rendez-vous demain soir, même chaîne, même heure. Au revoir.